Donc, ouais, bon, je me présente, je m'appelle Adrien, je suis développeur de iFood depuis 2008. Donc employé à plein temps depuis un an par iFood. Je vais vous présenter un peu ce système aujourd'hui. Voilà, donc iFood, c'est un système qui est inspiré par BOS et qui est compatible avec BOS. Donc, c'est un système d'exploitation commerciale qui a été développé jusqu'en 2001. En 2001, donc, la société Bi a coulé et du coup, il y avait une communauté d'utilisateurs et puis de développeurs d'applications autour de ce système qui se sont regroupés pour créer un nouveau système qui s'appelle iFood et qui est un logiciel libre, du coup, de façon à ce que le problème puisse être repris et dépendant d'une société. Donc, du coup, donc, l'idée, c'est de faire un système pour les ordinateurs de bureau. Donc, c'est pas un système pour les serveurs ou pour l'informatique embarquée, ni pour les ordiphones ou les smartphones. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un système pour les ordinateurs de bureau qui soit facile à prendre en main et à utiliser, et qui soit aussi assez léger. Voilà. Et donc, il y a aussi le choix de la licence que je mentionne, qui est la licence MIT. Donc, l'idée étant que si il y avait une suite à l'avis de BOS, qui était un projet commercial, on puisse utiliser les sources de iFood dans un projet commercial. Bon, ça n'a pas été le cas, mais bon, c'était prévu comme ça au départ. Donc, je fais un rapide historique de iFood. Donc, le projet a été créé en 2001 sous le nom de OpenBOS. Il a changé de nom un petit peu plus tard suite à des problèmes de marque déposée, puisque BOS est une marque déposée. Donc en 2003, il y a eu iFood INC, qui est l'association qui gère en fait le budget d'iFood, finalement, donc qui permet de récolter des donations et de financer le développement du projet. En 2005, donc, c'est le moment où le système devient à peu près utilisable, parce qu'on a Tracker qui a fonctionné, donc c'est le gestionnaire de fichiers de BOS en fait, qui était open source, donc on a pu récupérer, et qui maintenant fonctionne sur iFood, donc depuis 2005. Et ensuite, donc en 2009, on a une première version alpha. Donc iFood est capable de se compiler lui-même sans planter au milieu. C'était la première fois que c'était possible, donc on a fait une version alpha pour fêter ça. Et ensuite, voilà, donc on a eu des versions donc en 2010, 2011, 2012. Et on n'a pas eu de version en 2013 pour l'instant, mais on travaille sur la version bêta 1 qui devrait arriver en début d'année prochaine si tout se passe bien. Voilà, donc entre-temps, il y a eu un gestionnaire de paquets qui est arrivé, donc c'est un assez gros changement dans iFood. Donc bon, j'en parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure. Voilà, donc le système iFood, donc je vais rentrer un peu dans les détails techniques. Donc on essaie de faire un système avec un système un peu plus moderne. Donc on a utilisé le langage C++. Bon, c'est plus très moderne aujourd'hui, mais voilà, c'est déjà mieux que faire du C. Donc on a un fonctionnement avec du multithread. Donc par exemple sur iFood, dès qu'on ouvre une application, donc c'est un thread, c'est normal, et dès qu'on ouvre une fenêtre, c'est un thread séparé en fait. Donc, ce qui fait qu'on va pouvoir avoir une fenêtre qui va répondre en fait à l'utilisateur, même si l'application par ailleurs est occupée. Et, c'est un truc qui est même pas encore possible dans certains toolkits graphiques où tout est dans un seul thread et c'est impossible de faire ce genre de choses. Voilà, donc ensuite, on a une autre caractéristique intéressante qui est l'utilisation d'attributs étendus sur le système de fichiers. Donc l'idée, c'est d'enrichir la notion de système de fichiers avec juste un nom, une date de création et des permissions Unix. Quelque chose de plus riche, on va dire. Donc on va pouvoir stocker l'expéditeur d'un mail ou la date de réception. On va pouvoir stocker des fichiers de contact avec le nom de la personne, son adresse, son numéro de téléphone, son adresse email. Et ces attributs peuvent également être requêtés, c'est-à-dire qu'on peut demander toutes les personnes habitant en Allemagne, par exemple, et on peut obtenir la liste des fichiers correspondants. On peut demander la liste des mails reçus pendant les 5 dernières minutes qui ne sont pas lus de tel expéditeur. Et donc grâce à l'indexation des attributs, on peut faire ça de façon rapide avec une mise à jour en temps réel des résultats. Donc dès qu'il y a un nouveau fichier qui est créé, qui correspond aux critères de la recherche, il apparaît directement dans les résultats. On essaie également d'avoir des applications qui soient bien intégrées. Donc, ça se manifeste par l'utilisation du drag and drop, donc tu peux s'y déplacer dans les applications. Donc, on va pouvoir transférer des données d'une application à une autre. On a ce qu'on appelle le scripting, donc, qui permet d'accéder au contenu, on va dire, d'une application. Donc, par exemple, quand on a une fenêtre, on va pouvoir explorer tous les éléments graphiques de la fenêtre, donc les menus, les boutons, ainsi de suite, on va pouvoir leur envoyer des commandes. Et chaque application va également pouvoir exposer une interface dédiée, donc de la même façon, qui va permettre d'y accéder de façon automatisée. Donc ça permet d'avoir un moyen d'utiliser des applications graphiques de façon automatique, qui est déjà inclus dans le système. On a également un accès via le shell, donc c'est un shell bash, mais on a plein de petites commandes qui permettent d'accéder à tous les aspects du système, donc utiliser le système de gestion d'attributs, faire des requêtes, et plein d'autres choses de ce genre-là qui permettent de faire des scripts shell intégrés au système. Et enfin, on a Stack and Tile, donc c'est un système qui permet d'empiler des fenêtres sous forme d'onglets, mais qui n'est pas restreint à une seule application. Donc on peut l'utiliser à plusieurs applications en même temps et regrouper les fenêtres de différentes applications sous forme d'onglets, ce qui permet d'avoir une intégration de différentes applications dans un environnement de travail. Et enfin, donc on essaie d'avoir une prise en main facile, donc tout est accessible graphiquement. Il y a des applications qui permettent de configurer le système, de faire toutes les tâches classiques, on va dire, et tout est également configurable en ligne de commande. On essaie d'avoir une ligne de commande qui est aussi abordable, donc c'est un truc qui est souvent négligé. Et on essaye de faire en sorte que la ligne de commande permette aussi d'accéder à différentes parties du système et de tout contrôler. Voilà, et enfin, donc on a une API qui est standardisée, qui est découpée en kits. Donc l'idée, c'est d'avoir une API unifiée, donc toutes les parties du système s'abordent un petit peu de la même façon. Donc on a une notion de kit, donc on a par exemple le Media Kit, qui est la gestion de fichiers multimédia, on a un Mail Kit pour la gestion des mails, on a d'autres kits un peu plus bas niveau, on va dire, comme l'Interface Kit, pour ce qui est interface graphique, l'Application Kit, qui fait tout ce qui est application, donc on va voir sans détail. Voilà, donc le code est principalement C++. Bon, c'est un langage qui est assez adapté à la programmation d'un système d'exploitation complet. Donc, c'est la difficulté en fait dans ce projet-là, c'est qu'on n'a pas plusieurs parties, donc un noyau, puis il y a plusieurs librairies qui vont se mettre par-dessus. En fait, on a tout le système, on essaie d'avoir un système cohérent. Du coup, on a choisi un langage qui est C++, qui permet d'être à l'aise finalement dans tous les niveaux du système. Donc le noyau est en C++. Et on va remonter jusqu'aux API utilisateurs, toujours en utilisant ce même langage, ce qui permet d'avoir quelque chose d'assez unifié, puis sur lequel tout le monde peut intervenir à tous les niveaux. On a quand même une API POSIX qui est disponible, qui n'est pas tout à fait complète, mais qui est quand même assez raisonnablement utilisable, on va dire. Voilà. Donc je vais détailler maintenant, kit par kit, un petit peu les principaux éléments de Haiku. Bon là j'ai une liste de tous les kits, j'ai pas eu le temps de tout présenter, donc je vais faire que la première moitié. Donc je commence par l'application kit, donc qui gère les applications, qui va permettre de lancer des applications, de récupérer des informations sur ces applications. Ensuite l'interface kit, donc qui permet tout ce qui est graphique. Le storage kit, donc c'est tout ce qui est stockage, donc la système de fichiers. Le translation kit, donc c'est la conversion de format de données, donc convertir des images dans différents formats par exemple. Et enfin le package kit, donc qui est le gestionnaire de paquets. Ensuite, les autres kits, je ne détaillerai pas, donc il y a le kernel kit, c'est tout ce qui est dans le noyau. On a le network kit pour le réseau, voilà, bon, c'est assez évident, on va dire. Et voilà, donc ensuite, il y a plein d'autres kits divers pour tout ce qui est multimédia, et puis le support kit qui gère un peu tout ce qui reste qu'on n'a pas pu intégrer dans les autres kits. Voilà, donc l'application kit, c'est le kit qui va gérer tout ce qui est application, et notamment la gestion des threads. Donc la classe qui est un petit peu à la base de tout ce qui est dans Haiku, c'est le looper. Donc l'idée, c'est d'avoir un thread qui va pouvoir recevoir des messages, en fait. Donc c'est une boucle qui attend des événements, finalement. Et on a donc les handlers, qui sont les objets qui vont traiter ces messages. Donc un looper a plusieurs handlers, et va distribuer en fait les messages qu'il reçoit. Donc le message, c'est la classe pMessage, là, on n'a pas fait très original. Donc un message, il y a d'abord un identifiant qui est un entier sur 32 bits, qui permet de savoir qu'est-ce que c'est. Donc on a des identifiants standards, genre déplacement de la souris, ou des choses comme ça. Et ensuite, c'est une classe avec... contient des données génériques, donc on peut attacher un contenu au message. Donc typiquement, quand il y a un déplacement de souris, on va attacher la position du curseur. Donc on peut attacher. Donc les données sont stockées sous un système avec une clé qui est une chaîne de caractères. Et sont typées et on peut avoir plusieurs données avec la même clé. Donc ça permet d'avoir des structures assez complexes finalement dans les messages. Donc, on a une classe qui s'appelle B-application, qui est une application finalement. Donc, c'est une boucle d'événements qui reçoit des messages. Et, donc, elle va gérer plusieurs petites choses, donc notamment la gestion des arguments passés en ligne de commande. Elle va gérer les fichiers qui sont également passés, donc soit en ligne de commande, soit par glisser déposé sur une des fenêtres de l'application, ou sur l'icône de l'application, d'ailleurs. Et elle est également identifiée par un type MIME. Donc on va retrouver dans les coups des types MIME utilisés un petit peu partout pour identifier les applications, les fichiers. Donc ça permet d'avoir un système qui permet d'identifier une application. Donc on a justement le roster qui est un registre de toutes les applications. Donc qui va pardon, gérer la liste des documents récemment ouverts dans toutes les applications. Et qui va également permettre de trouver pour un fichier l'application qui va pouvoir l'ouvrir. Qui va aussi permettre d'envoyer des messages à toutes les applications ou de retrouver une application en fonction de son type MIME qui l'identifie. Ce qui permet d'ouvrir une application sans savoir où est stocké le fichier exécutable en fait. On peut demander à une application qui est quelque part d'ouvrir un fichier ou alors de se lancer tout simplement. Voilà. Et donc ensuite au niveau du scripting, donc c'est également au niveau de ce qui classe déjà, donc on a un système en fait d'énumération de propriétés donc qui est dans les applications. Donc l'idée c'est que chaque application peut exposer donc une interface, donc il y a une notion de propriétés qui sont exposées. Donc par exemple une application va énumérer ses différentes fenêtres de cette façon-là. Donc on peut lui demander de récupérer les informations sur une fenêtre, de changer le titre de la fenêtre. On peut également lui demander éventuellement de créer une nouvelle fenêtre. Donc ça va lancer une nouvelle fenêtre dans un traitement de texte, pardon, créer un nouveau document et pouvoir commencer interagir avec la fenêtre qui a été ouverte en modifiant le contenu du document. Par la suite. Ouais, bon, ça c'est un truc qui préfigure également Binder qui est utilisé par Android et qui pousse les choses un petit peu plus loin. Donc, on va passer à l'interface kit. Donc l'interface kit, c'est tout ce qui est interface graphique. Donc l'idée, c'est d'avoir des fenêtres. Donc là, on a une classe qui s'appelle TheWindow. C'est toujours pas très original. Donc l'idée, c'est également un looper, donc une boucle de messages avec son propre thread. Et chaque vue qui est dans la fenêtre, donc chaque bouton, chaque menu, etc., va être susceptible de recevoir des messages. Donc l'idée, c'est que du coup, on va avoir des traitements longs qui sont toujours faits dans le thread principal de l'application. Et on va laisser les threads des fenêtres disponibles pour uniquement tout ce qui est interface graphique. Ce qui fait qu'on va pouvoir réagir tout de suite quand l'utilisateur clique sur un bouton, par exemple, il n'y aura pas de fenêtre gelée parce que l'application est en train de faire un calcul. Voilà, donc l'idée c'est d'arriver à mettre ce genre de choses en place. Alors du coup, évidemment, on a un problème, c'est qu'on a forcément plusieurs threads dans une application, il y a au moins l'application et une fenêtre. Et du coup, on a un problème de synchronisation de threads. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise uniquement la communication par message entre l'application et ses fenêtres. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas de mémoire directement partagée en fait, entre les deux, donc on n'a pas de problème de synchronisation, ou moins de problème de synchronisation en tout cas. Donc ensuite on a un app server, donc c'est l'équivalent de XSON en fait. Donc c'est le serveur qui gère l'affichage, donc qui communique avec qui reçoit les instructions des fenêtres et qui fait tout ce qui est algorithme de tracé. Donc là aussi, ça se fait dans un thread séparé, c'est pas le thread de la fenêtre qui fait le tracé le tracé graphique, on va dire, des fenêtres. Ce qui fait qu'on garde toujours cette notion de réactivité. On a un thread qui doit absolument faire presque rien en fait pour être toujours disponible pour les demandes de l'utilisateur. Donc on va séparer également tout ce qui est graphique du côté de l'app server. Donc c'est rendu côté serveur. Ce qui évite donc de bloquer la fenêtre pendant l'affichage. Il y a également de la transparence réseau qui est supportée par App Server, donc on peut l'exécuter sur une machine différente. On va pouvoir envoyer donc les commandes de tracé via le réseau et afficher les fenêtres sur une autre machine. Donc ensuite, je vais parler rapidement du storage kit. Donc c'est la gestion des fichiers avec les attributs étendus dont j'ai déjà parlé un petit peu. Donc nos attributs, ils sont typés et ils sont sans limite de taille. Donc contrairement à beaucoup d'autres systèmes de fichiers qui ont des attributs limités à en général 1 ou 4 kilooctets et qui n'ont pas de type. Donc là, on va donner des informations supplémentaires. Donc on va savoir qu'un attribut stocke du texte ou stocke un nombre, par exemple. Ce qui va permettre ensuite de faire des comparaisons. Typiquement, si un nombre, on va chercher supérieur à, inférieur à. Donc dans les requêtes, c'est un truc assez important. Alors que si on avait que des chaînes de caractères, comme ce qui est fait par exemple dans RazerFS ou dans XT4, on ne pourrait pas faire ce genre de choses. Ou alors il faudrait à chaque fois regarder est-ce que c'est un nombre, on essaie de le convertir. Voilà, on perdrait un temps fou à essayer de faire ça. Donc on utilise ces attributs pour stocker donc, des métadonnées et aussi des données. Donc il y a certains fichiers où en fait le contenu principal du fichier est vide et il n'y a que des attributs. Donc, notamment c'est le cas des fichiers de contact. Donc on va gérer une liste de contact. En fait toutes les informations sont dans les attributs. Donc on a le nom, l'adresse, etc. Donc tout ça c'est des attributs. Et en fait le fichier lui-même est vide puisqu'il n'y a pas d'informations à stocker dans le fichier. Proprement dit. Ouais, donc ces attributs peuvent être indexés et recrutés. Et il y a également donc, un système de surveillance, donc de node monitoring. Donc, c'est-à-dire qu'on peut surveiller un dossier et recevoir une notification dès qu'il y a un nouveau fichier dans ce dossier qui est créé. Donc ça permet aux applications de se mettre en attente sur des événements. Donc, typiquement, donc, l'application que j'utilise là pour la présentation, elle va surveiller le fichier source de la présentation. Si elle le modifie dans un éditeur de texte, elle va le mettre à jour le contenu des slides en temps réel. Donc on peut faire ce genre de choses. Donc voilà, il y a quelques exemples dont j'en ai déjà un petit peu parlé. On peut l'utiliser pour le courrier électronique, pour les contacts. On peut l'utiliser pour gérer une collection de musique. Donc là, on va stocker l'auteur, titre, album, toutes les métadonnées typiques d'un fichier de musique. On va pouvoir faire des requêtes dessus et ensuite fournir ces requêtes au lecteur média. Donc on n'a pas besoin d'une application dédiée pour gérer une bibliothèque de musique. On a juste un lecteur de fichiers médias et on a un navigateur de fichiers qui va permettre d'accéder aux fichiers en faisant des requêtes. Donc demander voilà, tous les fichiers médicaux de tel auteur, ensuite de les lire sans avoir à passer par une application spécifique. On stocke également des icônes, donc dans un format vectoriel, ils sont stockés sous forme d'attributs dans le système de fichiers directement, ce qui permet de les récupérer rapidement. Donc quand on a affiché un fichier, on va récupérer son nom et dans le même bloc en fait, du système de fichiers, on a son icône juste à côté, donc sous un format vectoriel compact, et du coup on va pouvoir l'afficher tout de suite dans le navigateur de fichiers. Donc, ce qui nous permet d'avoir des choses un peu plus jolies dans le navigateur de fichiers avec tous les fichiers qui n'ont pas la même icône. On va également stocker donc, la signature MIME des applications, donc, ce qui va permettre au roster de retrouver une application et de l'exécuter. Voilà, et enfin, on stocke, donc, c'est un dernier exemple, on peut stocker la taille et la position des fenêtres. Donc, par exemple, pour un document texte, on va retenir la taille et la position de la fenêtre, ce qui fait que quand on va le rouvrir, il sera au même endroit sur le bureau. Voilà, ce qui permet de s'y retrouver plus facilement finalement dans le système. Alors on a également une notion d'archive dans le storage kit. Donc l'idée c'est de sérialiser l'état d'un objet dans un message. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire c'est ensuite reconstruire un clone de cet objet C++. Donc il y a une interface qui s'appelle dArchivable. Donc l'idée c'est de pouvoir stocker un objet dans un fichier ou de l'envoyer par le réseau ou alors même de l'échanger avec une autre application sur la même machine. Donc on l'utilise pour tout ce qui est lycée déposé, en fait on va archiver les données et on va les extraire dans une autre application quand on va déposer l'objet qui va être recréé de l'autre côté dans l'autre application qui pourra l'utiliser. On peut utiliser donc les réplicances, donc l'idée c'est de prendre une partie de l'interface graphique d'une application et de l'implanter dans une autre en fait. Donc on va l'utiliser par exemple pour faire des applets sur le bureau. Donc on peut intégrer une partie d'une application, donc, par exemple un graphe d'activité du processeur, on peut l'intégrer sur le bureau. Donc on va récupérer l'objet en fait, qui a été créé dans une application et en faire un clone dans l'application qui gère le bureau. Voilà, et donc on peut utiliser ça par exemple pour la conception d'interface graphique, donc on peut archiver une fenêtre complète. Donc on va utiliser une application d'édition où on va pouvoir dessiner une fenêtre avec ses boutons, avec toutes ses vues. On va pouvoir archiver tout ça et en fait dans l'application finale qui va utiliser la fenêtre, on va juste à extraire cette archive et récupérer les objets. Et on n'a pas besoin de recréer la fenêtre manuellement en C++ en créant tous les widgets simplement. Donc le Translation Kit, donc, c'est un kit qui permet de gérer donc, les formats de données. Donc l'idée c'est que les applications puissent utiliser différents formats de données. Donc par exemple quand on va avoir des images, on peut stocker des fichiers PNG, JPEG, etc. On peut avoir de nouveaux formats qui apparaissent de temps en temps. Donc le dernier c'est le WebP par exemple, qui est apparu assez récemment. Donc l'idée, c'est qu'au lieu que d'avoir chaque application avec sa gestion de chaque format, en ayant cherché les JPEG, les PNG, etc., en fait, ces applications vont utiliser une API standard du système pour récupérer l'image, par exemple à partir d'un fichier, et c'est le système qui va se charger de trouver le bon format et de décoder l'image. Du coup, ça va permettre d'ajouter a posteriori des formats de fichiers, et les applications existantes pourront les utiliser tout de suite. Donc l'idée, donc, c'est que l'application va négocier avec le Translation Kit un format de données commun. Donc, typiquement pour les images, ça sera un bitmap brut avec les infos sur la largeur et la hauteur. Ensuite, c'est le Translation Kit qui va s'occuper de convertir l'image dans ce format que l'application peut comprendre. Donc ça marche pour les images et ça marche aussi pour tout ce qui est texte enrichi. Donc on va pouvoir convertir du RTF ou d'autres formats de fichiers pour le texte, par exemple. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté ? Oui, on peut avoir des applications un petit peu différentes. Donc, par exemple, on peut faire de l'acquisition d'images, donc depuis un fichier, comme j'expliquais, mais on peut aussi avoir une traduction depuis un scanner, par exemple, ou depuis une webcam, qui va aussi donner une image, en fait. Donc, du coup, il y a la même interface, l'application peut indifféremment récupérer des images de différentes sources. Je parle enfin du package kit, donc c'est la nouveauté cette année dans Haiku. Donc c'est le kit qui va gérer un système de paquets de logiciels avec les dépendances. Donc l'idée, c'est d'avoir des paquets qui ne sont pas installés au sens classique, puisqu'ils ne sont pas extraits, en fait on va garder les fichiers dans le paquet. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter ça sous forme d'un système de fichiers virtuels, donc qui va permettre d'accéder aux fichiers qui sont dans le paquet. Donc ça permet d'installer et de désinstaller les paquets assez facilement, simplement en plaçant le fichier dans le dossier qui va bien. Donc en fait, ce système va utiliser le cache de fichiers du système pour garder une copie décompressée du paquet en mémoire. Du coup, ça permet d'accéder rapidement aux fichiers contenus dans le paquet. Voilà. Donc je ne présente pas plus en détail pour l'instant. Je termine la présentation là-dessus. Faire une démonstration sur le temps, oui, je pense. Je prends 5 minutes pour faire une petite démonstration du système. Donc j'ai mis quelques liens si ça vous intéresse pour en savoir plus. Vous pouvez passer nous voir, on a un stand sur la mezzanine, donc passez nous voir si vous voulez discuter plus en détail de Haiku. Voilà. Donc, je vais faire une petite démonstration quand même. Voilà, donc ça c'est Haiku, je vais... Alors, qu'est-ce que je peux montrer? Voyons. Donc, bon, je vais montrer le gestionnaire de paquets, du coup. Donc, on a un gestionnaire de paquets, on a une version graphique, donc une petite application qui permet de voir les paquets, voilà. Donc, chaque paquet, après, il y a une vue avec des commentaires, donc on a essayé d'avoir un aspect communautaire, donc il y a notamment des évaluations qui peuvent être données, il y a des commentaires d'utilisateurs, donc c'est des choses qui ne sont pas forcément présentes dans les gestionnaires de paquets sous Linux, je pense. Peut-être que si, non. Mais voilà, on essaie d'avoir cet aspect-là en plus de simplement l'installation et les installations des paquets. Donc ensuite, je vais faire une... Donc, je vais faire une petite démonstration. Donc là, c'est des records de qui installé. Voilà, il est là. Donc c'est l'application pour graver des CD. Donc elle est dans un paquet qui se trouve là. Donc, je vais prendre le paquet CDRTools qui est dans le dossier système où les paquets sont installés. Je vais le déplacer dans mon dossier personnel. Et donc là, on voit que l'application n'est plus installée. Et là, je vais faire la manipulation inverse. Voilà. Donc là, le paquet a été installé automatiquement. Donc là, on a vu que le gestionnaire de paquet en fait, a pu a pu voir qu'il y avait un nouveau fichier qui était apparu dans le dossier package. Donc il a identifié que c'était un paquet et tout de suite il a monté dans le système de fichiers virtuels. Et du coup, on voit que le paquet s'est désinstallé puis il a installé automatiquement sans avoir aucune manipulation particulière à faire, sinon on va déplacer le fichier. Voilà. Je ne sais pas si je peux faire une démo des trucs. Je suis sûr que ça marche. Je vais essayer, c'est en tout cas c'est important. Je ferai la démo sur le stand avec notre machine, mais on peut faire une session de tribu. Bon, je crois que c'est bon, il y a du temps, là, si vous avez des questions. Du coup.
Est-ce que le fait que le système soit en C++, ça ne pose pas des problèmes d'interfaçage si vous l'avez...
Alors effectivement, on a un problème avec le C++, c'est qu'il y a beaucoup d'autres langages en fait, qui sont interfaçables uniquement avec du C.
Alors, il y a beaucoup d'allergies au C++.
Il y a beaucoup d'allergies, c'est vrai.
C'est juste des Linux, hein.
Ouais. Alors c'est un peu dommage parce qu'il y a plein de langages objets en fait qui ont que des interfaces en C, donc c'est un peu leur faute on va dire, mais voilà. Après il y a quand même quelques projets qui existent, donc notamment on a une interface avec Python, donc on peut faire des interfaces graphiques pour écrire en Python, donc c'est possible. Après c'est un peu plus de travail effectivement que quand on a une API en C, il faut réfléchir un peu plus, mais au final en fait, la question ne se pose pas vraiment parce qu'on ne peut pas exposer directement l'API C++ telle qu'elle en Python par exemple. On va essayer d'avoir une API native en Python qui sera pas forcément la même en fait. On n'a pas la même façon de faire les choses en Python qu'en C++. Et donc idéalement, ce qu'on aimerait avoir, c'est vraiment une API différente éventuellement. Donc, en Python, c'est un petit peu commencé, on commence à avoir du Go, parce qu'on a plusieurs développeurs qui s'intéressent au langage Go. Du coup, qui ont commencé à porter Go, ce qui n'était pas évident, et puis commencer à réfléchir sur comment on pourrait l'interfacer avec le système. Donc ce serait plutôt à faire au cas par cas pour chaque langage, de façon à avoir un truc vraiment, vraiment intégré.
Vous pensez que la version finale, elle sortira en même temps?
Non, on ne sait pas. On essaie d'avoir une version bêta 1 en fait, qui va sortir en début d'année prochaine, normalement. Et ensuite, l'idée, c'est de partir de cette version-là et d'aller petit à petit vers une version stable, définitive, on va dire. Donc, c'est difficile à dire, mais je pense qu'on va essayer d'avoir une version tous les 3-6 mois à partir de la bêta 1. Et puis, quand on sera assez content de ce qu'on a fait, on fera une version stable. Il reste encore quelques problèmes connus pour l'instant, notamment avec le shard de paquet qui est arrivé. Ça finit par être plus gros que ce qu'on avait prévu au départ, en fait. Au départ, on réfléchissait juste à comment mettre à jour le système. Et en fait, petit à petit, on s'est embarqué dans cette histoire de gestionnaire de paquets avec ce système de fichiers virtuels qui change pas mal de choses dans le fonctionnement du système. Et ce qui fait qu'on a un peu dérivé là-dessus, mais maintenant que ça fonctionne, on va pouvoir arriver à avoir notre version stable.
Le système de paquets avec le système de fichiers virtuels, tout ça, c'est existé dans le BOS d'origine ou c'est...
Non, ça c'est une nouveauté, ouais. Il y a plein de petites choses qui ont été rajoutées. Au départ, Haiku devait être un clone de BOS strict, on va dire. Et puis en fait, on a rajouté Wi-Fi, on a rajouté USB, parce que c'est pas le cas à l'école. Voilà. Et du coup, il y a plein de petites choses en plus. On a un navigateur web à jour, ce qui est quand même pas simple aussi. On a porté WebKit, là où l'US gérait tout juste un petit peu de JavaScript et pas encore la CSS. Donc voilà. On est déjà bien plus loin que ce que faisait l'US au final. Donc on a du coup rajouté ce genre de paquet. Mais c'est vrai qu'on ne pensait pas que ça serait un développement aussi lourd au final. Sinon, on aurait sûrement sorti une version avant. Donc, c'est trop tard, on va faire avec.
Et justement, en termes de support matériel, est-ce que c'est difficile d'avoir une machine qui est compatible avec Haiku?
La mienne fonctionne bien, en tout cas.
Il faut choisir un hardware particulier.
Ouais, il vaut mieux se renseigner un petit peu avant d'acheter une machine. Ouais. C'est vrai que c'est un petit peu délicat. Ça dépend aussi des fabricants, parce que genre, pour Intel, qui ont la bonne idée de donner les spécifications de leur matériel. On peut écrire des pilotes assez facilement.
Il faut juste éviter Nvidia.
Voilà.
D'accord.
En gros, avec maintenant.
Alors, le problème, c'est qu'on n'utilise pas X11 et qu'on n'utilise pas le noyau Linux. On est obligé de faire. Voilà, on a un petit peu de travail à faire nous-mêmes pour porter des pilotes. Ouais.
Il faudrait que je regarde, mais bon, la dernière fois que j'ai utilisé le nouveau, il portait 3 fois par semaine sur ma machine, donc ça m'a un peu
travaillé. Sur Linux, il y a des
systèmes. Ouais, c'est non, mais c'est sur cette puce-là en particulier, apparemment.
Ouais. Oui, ça dépend après des modèles de la plus.
Dans ton exemple de fichier vide qui n'a pas contenu ses attributs,
Qu'est-ce qui se passe quand tu envoies ce fichier par mail en pièce jointe, par exemple ? Est-ce que les attributs suivent ou pas ?
Là, tu le dis.
Ça dépend, en fait. On essaie d'avoir le support, donc notamment dans les fichiers zip, on peut stocker des attributs. Dans les fichiers tar, on ne peut pas, c'est pas prévu. Donc,
Il y a des extensions, mais...
Ouais, il y a des extensions, mais bon, c'est pas... Donc, ouais, notamment, effectivement, si tu envoies par mail, c'est perdu, mais après, il y a des moyens d'encoder ça. Donc, ce que faisait macOS, par exemple, c'est d'afficher un underscore DB Store, je crois, sur macOS ou un truc comme ça. Voilà, on peut envisager ce genre de solution, pas trop, pour être compatible avec d'autres gens, mais après.
Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'OS en fait, qui supportent les attributs étendus, mais à leur sauce. Et donc, ils n'arrivent pas à se parler.
On a beaucoup de problèmes de compatibilité avec ça, donc notamment du fait que nos attributs soient typés et que ce ne soit pas le cas ailleurs déjà. Donc, il faudrait qu'on définisse un format. On pourrait stocker, si tu veux, dans un mail, on peut encoder. C'est un codage libre en général, donc on peut avoir un format étendu, parce que le format mini permet de stocker plus dans un fichier, donc on pourra avoir des informations sur les différents attributs dedans, mais il faut choisir un format, et ça sert à rien si personne ne peut le décoder de l'autre côté. Donc, donc pour l'instant, la solution, c'est de mettre dans un fichier zip et d'envoyer ça.
C'est
une
question un peu stupide, mais j'ai vu que toutes les classes étaient dans le développeur, etc. Il y a une volonté de payer une space et plus.
Alors, c'est pas vraiment une volonté, c'est que BIOS avait choisi ça c'est un héritage de BIOS en fait.
D'accord.
Ça date des années 90, du coup, les namespaces ça marchait pas encore trop bien à l'époque. Mais ouais, du coup, c'est une des choses qui vont sûrement changer quand on fera la version 2 de Haiku qui va casser la compatibilité avec BIOS. Parce que pour l'instant, on est compatible au niveau binaire. Tu peux prendre des applications BIOS et les lancer sur Haiku sans les recompiler, ça fonctionne. Ce qui suppose qu'il y a pas mal de contraintes au niveau de l'API, puis au niveau des outils qu'on utilise. On a encore un GCC2 pour la compatibilité. On a un GCC4 aussi hein, pour les applications récentes, mais voilà, donc on a encore un support de GCC2 avec une UC patchée qui est celle de BIOS qu'on a fait évoluer cette fois-ci. Mais, voilà, mais du coup, ouais, effectivement, il y aura probablement des namespace dans la version 2 de Haiku, parce que là, c'est vrai qu'on est un peu sur un truc hein, pas très propre, on va dire. On commence à utiliser des namespaces petit à petit, donc on a un namespace private pour tout ce qui est expérimental, on va dire. C'est vrai que bon, les API existantes, on peut pas faire grand chose, du coup on a essayé de rester dans le mode existant pour pas trop séparer les nouveautés de ce qui existe déjà.
Ça tourne bien la virtualisation, genre avec KVM?
Donc ça tourne avec QEMU, ça tourne en fournit même des images VMware déjà au format VMware, pas qu'il y ait besoin de faire quoi que ce soit. C'est comme ça qu'il est souvent utilisé. En fait, moi j'utilise sur ma machine nativement, mais bon, c'est pas le cas de tout le monde, parce que c'est vrai que c'est difficile d'être sous Haiku, il manque souvent des applications, donc on va le dire, hein, le système lui-même fonctionne bien, il manque beaucoup d'applications encore, donc c'est vrai qu'il est souvent utilisé en virtualisation, donc en général ça marche assez bien.
Les applications par exemple sous les
BSDL,
on peut pas.
On a un portage de Qt et de Java pour l'instant. Donc ça permet déjà d'avoir quand même quelques applications qui fonctionnent. Alors, ça fait pas tout, mais c'était voilà, tout ce qui est en GTK, tout ce qui est en WXQGIS, ça on peut pas. Donc il faut. Et puis le problème c'est que quand on porte des applications, souvent elles vont pas s'intégrer, on va dire, au système. Donc typiquement voilà, on va porter un lecteur de fichiers médias qui va être incapable d'utiliser les attributs alors que toutes les infos sont stockées dedans. Typiquement, si j'ai un CD dans les coups, en fait, on va récupérer. Donc, on a un système de fichiers pour les CD audio. On va récupérer via CDDB ou FreeDB les infos sur les pistes, on va les stocker sous forme d'attributs. Du coup, on ne va pas les stocker dans les tags ID3 des fichiers parce que ça ne sert à rien. Et du coup, quand on a une application qu'on a portée, elle ne va pas les retrouver parce qu'elle n'est pas capable d'aller chercher dans les attributs. Voilà, on a plein de petits problèmes d'intégration comme ça. On va faire du drag and drop et ça ne marche pas parce que l'application est incapable de lire le bon format. Donc on peut le faire, ça dépanne, hein, c'est vrai, mais des fois on sent qu'on n'arrivera pas à avoir un système intégré qu'on voudrait le faire, rien qu'avec des applications à distance. Voilà. Donc, c'est un choix, il faut arriver à trouver un juste milieu entre les deux, récupérer des applications existantes et à la fois arriver soit à les intégrer proprement, ce qui est pas mal de travail en général, ou soit refaire des applications qui utilisent toutes ces fonctionnalités. Parce que bon, c'est joli tout ça, mais si les applications ne l'utilisent pas, ça ne sert à rien. Voilà.
Quel est le degré d'adoption de Haiku et la dynamique? Est-ce que c'est toujours le même noyau dur de 2001-2004
ou... Ça change un peu. Moi, j'ai rejoint le projet qu'en 2008. Après, c'est vrai qu'on revoit toujours un peu les mêmes personnes, hein, au final. Après, bon, c'est aussi en fonction du temps libre des gens pour contribuer. Donc on essaie de recruter avec au niveau de l'équipe de développement, on a une vingtaine de développeurs actifs. On essaie de recruter, il y a le Google Summer of Code des étudiants, donc ça marche assez bien finalement. On arrive quand même à renouveler un petit peu les développeurs. Après, au niveau des utilisateurs, il y a des gens qui arrivent à chaque nouvelle version de Ubuntu ou de macOS X qui sont déçus et qui viennent essayer Haiku. C'est vrai qu'on a un système voilà, qui reste en fait assez fixe, on va dire, depuis au niveau de la façon d'utiliser, qui est assez stable. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent retrouver un petit peu cette interface traditionnelle, on va dire. Là, il y a d'autres systèmes qui essaient d'aller plus vers des interfaces à la fois pour les téléphones et pour les ordinateurs de bureau. Et c'est vrai que ça se passe pas toujours très bien. Donc c'est là qu'on on retrouve un petit peu les utilisateurs déçus de ces choses-là qui viennent retrouver un système un peu plus classique, on va dire.
Mode
de 40,
elle est là.
Ouais, bah, on va être là. Donc, passez-nous voir sur le stand d'Aïkou s'il y a d'autres questions.